Salut, ici le docteur Brown pour un nouvel épisode où nous traitons des questions communes des religions monothéistes. Aujourd'hui, parlons d'athéisme. Je vais débuter avec une citation de F.W. Norwood. Perdre Dieu est la plus grande tragédie et de ne pas le manquer. Les athées affirment qu'ils peuvent expliquer notre existence via la science, par le Big Bang, par l'évolution, et puis, car ces explications les contentent. Maintenant, j'ai déjà traité ce sujet dans ma conférence, mais j'aimerais le redire. En bref, le problème est que par ces explications du Big Bang et l'évolution, la science se contredit. Pourquoi? Parce que c'est un principe général de la science de croire au concept d'entropie. L'entropie est le principe selon lequel tout dégénère en chaos à moins d'être contrôlé. À moins d'une force supérieure qui contrôle un processus, cela se transforme en chaos. Maintenant, peu importe si vous parlez de la chambre de votre enfant, l'évier ou une réaction chimique. S'il n'y a rien pour le contrôler, il dégénérera en chaos. Si personne ne le fait, la chambre de l'enfant sera en désordre. Si personne ne lave les assiettes, elles s'accumuleront. Et si personne ne régule une réaction chimique, cela fera ce qu'il veut, parfois provoquant un désastre. S'il n'y a pas de contrôle sur un processus, cela dégénère en chaos. Et donc, dans chaque processus qui aboutit à un résultat organisé, il y a un pouvoir supérieur qui contrôle. On nous dit de croire que le Big Bang, l'événement le plus dévastateur de l'histoire, où toute la matière et l'énergie de l'univers se sont unies en un noyau hyperdense et a éclaté, créant un univers mesurant 240 suivi de 21 zéros miles de diamètre. Et cela s'est fait par hasard. Et cette explosion n'a pas mené au chaos, mais à la perfection, avec des orbites harmonieuses, avec des milliards de galaxies, plus d'un milliard, sans aucune collision. C'est un conte assez incroyable. En même temps, on nous dit que l'évolution était un processus où, par exposition aux éléments primordiaux, des acides aminés ont été formés, les blocs de base des protéines qui est devenu un organisme unicellulaire. L'organisme unicellulaire a évolué pendant des millions d'années en divers organismes que nous avons aujourd'hui. Cela montre la diversité de la vie que nous connaissons. De nouveau, un autre processus qui, sans un contrôle supérieur sur ce processus, nous nous attendrions à ce que cela dégénère en chaos, pas en perfection. Et pourtant, c'est ce que croient les athées. Le Big Bang, un événement colossal, les millions d'années d'évolution aléatoire et sans contrôle, n'ont pas mené au chaos, mais à la perfection. Cela est assez incroyable. C'est pour cette raison que de nombreux scientifiques, ces dernières années, ont renoncé au concept d'évolution et ont attribué le label de design intelligent, une conclusion selon laquelle rien de tout cela n'aurait pu arriver sans être supervisé par une force supérieure. À présent, il y a d'autres problèmes. Par exemple, l'évolution ou la sélection naturelle peuvent expliquer la variété des espèces. Elle peut expliquer pourquoi les chevaux, il y a 1 million d'années, étaient de cette taille et maintenant ils sont plus petits. Elle peut expliquer d'où venaient les dinosaures et où ils sont partis. Elle peut expliquer beaucoup de choses. Mais ce qu'elle ne peut pas justifier, c'est l'existence de l'âme. Si vous croyez à l'âme, d'où cela vient et comment cela a-t-il pu évoluer? Si vous regardez un organisme vivant, tous les organismes vivants ont quelque chose d'autre d'indéniable, et c'est la vie. Ils ont de la vie. D'où cela vient? Lorsqu'un organisme meurt, lorsqu'un animal meurt, les parties continuent souvent à fonctionner. La mort du cerveau n'est pas toujours instantanée. Si les organes fonctionnent encore, pourquoi le corps est-il sans vie? D'où vient la vie? Et d'où cela vient-il? Nous, en tant qu'êtres humains, pouvons transplanter presque tous les organes du corps. Nous pouvons assembler une créature à la Frankenstein, mais personne ne peut lui donner la vie. Tous les scientifiques dans le monde ne peuvent assembler l'aile d'un insecte. Nous ne pouvons pas assembler le plus petit être vivant de la création et lui donner la vie. D'où cela vient-il? La théorie de l'évolution peut expliquer beaucoup de choses, mais il y a aussi des éléments essentiels à la vie qu'elle ne peut pas éclairer. Cela dit, il y a cette citation célèbre qui affirme qu'il n'y a pas d'athée dans une tranchée, ce qui veut dire que tout le monde, à un moment de sa vie, entre dans une phase de panique, une période où, pour une raison ou une autre, ils sont submergés par la panique et le désespoir. Et à ces moments-là, vous ne trouvez jamais personne appelant à l'aide, tout sauf leur créateur. Oh mon Dieu, aide-moi. Oh Dieu ceci, oh Dieu cela, mais c'est toujours, oh Dieu, même d'un athée. La poétesse britannique Elizabeth Browning, dans Le cri de l'humain, avait deux vers magnifiques. Et les lèvres disent « Dieu, aie pitié », qui n'a jamais dit « Loué soit Dieu ». Il viendra un jour où l'humanité se tiendra au jugement et ceux qui n'ont jamais loué Dieu demanderont sa miséricorde. Ils n'ont jamais loué Dieu, mais ils demanderont à Dieu d'être bienveillant. Comment espèrent-ils la miséricorde d'un Dieu qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils n'ont jamais vénéré? La prière d'un sceptique est un bon point de départ. Ceux qui connaissent mon histoire de conversion, comment je suis devenu croyant, savent que cela a débuté par la prière du sceptique. Je ne savais pas que cette prière avait un nom à l'époque. La prière que j'ai faite était « Oh Dieu, si tu es là », je ne savais même pas. J'étais athée. Beaucoup de gens pensent que j'étais chrétien et je suis venu à l'islam à travers le christianisme. Ce n'était jamais le cas. J'étais un athée devenu religieux, à la recherche de la vérité que je n'ai pas trouvée dans le christianisme, mais que j'ai trouvée dans l'islam. J'étais l'athée qui priait, « Oh Dieu, si tu es là, car je ne savais pas. » Mais j'ai fait la prière. « Oh Dieu, si tu es là, aide-moi et guide-moi. » Et j'ai juré que si Dieu me guidait vers la foi qui lui plaît le plus, je la suivrais. Et c'est une prière que chacun peut adresser. Invoquer notre Créateur de cette manière. Notre Créateur, si tu es là, guide-moi et je suivrai. Nous regardons le passé. Nous trouvons des gens célèbres qui parlent de ce sujet. Francis Bacon, citation, « Je préférerais croire à tous les contes, légendes et au Talmud » et au Coran, plutôt que de croire que cet univers est sans esprit, affirmant qu'il préférerait croire tout ce qui est écrit dans les livres sacrés, plutôt que de croire que cette immense création est sans créateur. Il a ensuite dit, « Dieu n'a jamais fait de miracle pour prouver l'athéisme, car ses œuvres ordinaires le convainquent. » Plus une personne en sait sur la création et les complexités de la vie, plus elle comprend que cela ne peut pas être le fruit du hasard. Des êtres vivants, plus ils réalisent que cela ne peut pas être arrivé par chance. Encore une fois, si nous relâchions les mécanismes de l'évolution se dérouler, comment pouvons-nous espérer qu'ils mènent à la perfection plutôt qu'au chaos? Nous observons un bâtiment. Nous savons qu'il y a un architecte. Nous regardons une sculpture. Nous savons qu'il y a un artiste. Nous regardons une peinture. Nous savons qu'il y a un peintre. Pourquoi est-ce que lorsque nous regardons la création, nous ne réalisons pas qu'il y a un créateur? Eh bien, beaucoup de gens ne comprennent pas certains aspects de cette vie qu'ils considèrent comme impies. Ils disent, « Oh, comment peut-il y avoir un Dieu si une telle tragédie arrive? » Mais qui sommes-nous pour remettre en question la méthode de notre Créateur? Oui, il y a des bébés qui meurent. Il y a ce vieux dicton, « Ceux que Dieu aime meurent jeunes ». Peut-on comprendre cela? Je peux. Cela a du sens pour moi. Si un être humain capable de comprendre la question était interrogé, que préférerais-tu maintenant, continuer dans cette vie ou aller directement au paradis à cet instant? Et s'il savait ce que le paradis signifie et ce que cela signifie de rester dans cette vie, ils accepteraient l'offre sans hésiter. Alors puis-je saisir la mort d'un jeune, aussi tragique soit-elle? À mon avis, ce n'est pas une mort, c'est un passage vers l'autre vie, la prochaine existence, qui, si c'est le paradis, seul un fou refuserait. S'il s'agit de l'enfer, seul un fou se dirigerait vers lui. Nous allons faire une pause. Restez avec nous, nous revenons bientôt. L'enfer est l'endroit dont nous avons besoin. Bienvenue de retour. Je suis le docteur Lawrence Brown, poursuivant cet épisode de Questions interconfessionnelles. Nous parlons d'athéisme, et nous avons terminé avec le fait qu'il existe de nombreux problèmes que soulèvent les athées pour dire comment cette tragédie peut-elle arriver et qu'il y ait un Dieu. Et je soulignais simplement que toutes les tragédies ne sont pas nécessairement une tragédie pour l'individu. Le jeune qui meurt et va au paradis, s'ils étaient questionnés depuis le paradis, s'ils, c'était une tragédie qu'ils passent de la vie terrestre au paradis, ils seraient sûrs de dire non, ce n'était pas une tragédie. Pour eux, c'était une bénédiction. Tout est une question de point de vue. Un autre aspect de la perspective que je pense que nous devons garder à l'esprit est que dans cette vie terrestre, ce sont toujours les favoris de Dieu qui souffrent des plus grandes afflictions. Ce sont les prophètes qui ont subi les plus grands tests, qui ont développé la patience de Job, par exemple, à cause des épreuves qu'ils ont subies. Nous savons que les prophètes ont souffert énormément dans ce monde. Ils ont été rabaissés par leur peuple. Ils ont parfois été torturés. Ils ont parfois été tués. Certains d'entre eux avaient des enfants qui sont morts dans leurs bras. Et oui. Donc, nous devons saisir que la récompense pour la piété et la droiture ne se trouve pas nécessairement dans cette vie. En effet, cette vie est un test. Cette vie est un test. Cette vie est une épreuve. C'est un terrain d'essai pour que nous montrions que nous méritons la récompense dans l'au-delà. Mais maintenant, si nous attendons le paradis dans cette vie, pourquoi devrions-nous espérer le paradis dans l'au-delà? Non, le paradis est à gagner. Et vous gagnez quelque chose par la difficulté, en surmontant la difficulté, pas en vivant comme si c'était une fête. Donc, en se rappelant que certains de ceux qui ont le plus souffert dans cette vie étaient en fait les prophètes, les favoris de notre Créateur, nous rappelle qu'il pourrait y avoir une logique supérieure, une compréhension plus élevée des événements que nous regardons et considérons comme tragiques. Peut-être qu'il y a une autre façon de les voir qui a du sens divin, et c'est en trouvant cette façon de les voir qui aide une personne à donner un sens à non seulement Dieu, mais aussi sa création et notre but d'être. Une chose que je voudrais dire est que personne ne conclut jamais un événement heureux par une tragédie et pense que c'est un bon jour. Personne ne sort pour une nuit magnifique, se fait voler à la fin et conclut « c'était génial, je veux le refaire ». Personne n'a les expériences les plus fantastiques à la fin desquelles cela se termine par une tragédie terrible et conclut que c'était bien. De la même manière, nous ne devrions pas voir cette vie et penser que c'est un temps de divertissement et puis se retrouver dans le feu de l'au-delà. Ce ne sera pas une bonne conclusion. Mais comme Allah nous le dit dans le Saint-Coran, la vie de ce monde n'est qu'un peu de réconfort dans l'au-delà. Nous ne pouvons pas penser que les criminels et les transgresseurs, lorsqu'ils reçoivent leur châtiment, vont trouver du réconfort dans les plaisirs qu'ils ont connus dans cette vie. Il n'y a pas dans cette vie où il y a rarement un déjeuner gratuit. Tout le monde sait que si vous voulez être rémunéré, vous devez faire le travail. Si vous ne faites pas le travail, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous êtes licencié. Réfléchissez à ce mot et à son sens. D'où vient ce mot? Les mots ne viennent pas de nulle part. Un produit qui n'est pas satisfaisant est recyclé ou détruit. Si nous sommes la création, nous sommes le produit. Et si nous ne sommes pas satisfaisants, c'est logique que nous soyons ceux qui seront dans le feu. Encore une fois, pour citer le Saint-Coran, « Et je n'ai pas créé, c'est Allah qui parle, je n'ai créé ni djinns ni hommes, sauf pour qu'ils servent. » Et certaines traductions le disent, « Adorez-moi, c'est notre description de travail, notre but d'existence, servir et adorer notre Créateur. » Comme l'a dit Francis Bacon, « Ceux qui nient un Dieu détruisent la noblesse de l'homme, car certainement, l'homme est parent des bêtes par son corps. Et s'il n'est pas parent de Dieu par son esprit, il est une créature vile et ignoble. Donc, je crois qu'il est important de réaliser que l'athéisme est une croyance. Nous le savons, nous savons qu'il est là, mais nous prions Dieu de nous en sauver. Comme je l'ai mentionné auparavant, si vous n'avez pas de croyance de base en Dieu pour commencer, il est difficile de prier quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Mais comment cela pourrait-il nuire à quelqu'un de sincère de prier et de demander à notre Créateur s'il est là? Ô Dieu, ô notre Créateur, si tu es là, montre-moi la voie de la vérité. Si tu es là, et si tu es là, et s'il y a une religion de vérité, je la suivrai. Comment cela pourrait-il nuire à quiconque de prier? Si tu pries sincèrement, comment peut-on imaginer que notre Créateur ne répondrait pas? Nous devrions légitimement passer à ce point pour discuter non de l'athéisme, mais de l'agnosticisme. Et bien que l'agnosticisme ne soit pas un credo, mais plutôt une méthode, c'est un concept très mal compris. Le concept d'agnosticisme n'est pas la croyance en Dieu, mais l'incapacité de croire en Dieu. Non, plutôt le concept d'agnosticisme est agnostique, pas savoir, ne pas pouvoir prouver. Tu sais, en latin, le A est négatif. Gnostique signifie connaissance. Cela signifie que tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Selon cette définition, qui n'est pas la définition du dictionnaire, mais celle selon Thomas Huxley, celui qui a créé le terme. Une personne peut être chrétienne, une personne peut être juive, une personne peut être musulmane et être agnostique dans le sens qu'il reconnaisse Dieu, qu'il croit en Dieu, qu'ils servent et adorent Dieu, mais ils ne croient pas qu'ils peuvent prouver l'existence de Dieu à autrui. C'est quelque chose qui doit venir de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui apporte la certitude de l'existence de Dieu dans le cœur et l'esprit d'une personne? Eh bien, le savoir religieux n'est pas comme d'autres savoirs. Ce n'est pas que académique. C'est autant une question de cœur que d'intellect. Mais avoir une vraie certitude en religion, cela ne vient que d'un seul endroit. C'est un don de notre Créateur. Ainsi, une personne peut se dire athée. Une personne peut prétendre être agnostique et trouver ses idéologies satisfaisantes. Mais vois, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être prouvées. La gravité. Tu peux faire tomber quelque chose et voir que ça fonctionne, mais tu ne peux pas voir la gravité. Par définition, tu ne peux pas voir un trou noir, bien que tu puisses voir les preuves de son existence. Tu ne peux pas prouver ton besoin de manger. Tu ne peux pas prouver que tu as mal à la tête. Tu peux montrer les symptômes, mais tu ne peux pas prouver cela. Nous arrivons à croire en la gravité, l'entropie, les trous noirs, nos émotions, nos sentiments, et ainsi de suite, parce que nous les vivons directement ou parce que les preuves accablantes y pointent. Et de la même façon, je dirais que les preuves abondantes montrent l'existence d'un Créateur. Un Bédouin a demandé un jour pourquoi il croit en Dieu, et il a simplement répondu, « Tu sais, si je vois des traces de pas, je sais qu'il y a eu un mouton ou une chèvre. Si je vois des empreintes de chameau, je sais qu'il y a eu un chameau. Et si je vois des empreintes, je sais qu'il y a eu un être humain. Et si je vois la création, je sais qu'il y a un créateur. Eh bien, pour ceux qui hésitent, ne tentez pas de le résoudre seul. Ne vous inquiétez pas. Priez notre créateur de le résoudre pour vous. Encore une fois, ô Dieu, si tu es présent. De la même façon que nous acceptons la gravité, l'entropie, le zéro absolu, les trous noirs, le besoin de manger, etc., etc. J'espère que nous arriverons tous un jour à accepter l'existence de Dieu. Et si nous y parvenons, la prochaine question est, et comment voyager à travers la chaîne de continuité et de révélation et arriver à la religion de vérité. C'est beaucoup de ce dont j'ai parlé et de ce dont je parlerai dans d'autres épisodes de cette série. Question interconfessionnelle. Alors, je vous remercie d'être là ce soir ou aujourd'hui et j'espère que vous serez là la prochaine fois. C'est le Dr. Lawrence Brown. Jusqu'à la prochaine fois, c'est le Dr. Brown qui vous envoie ses salutations de paix.